Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, au verset 12. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause beaucoup plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Lisons ensemble dans Luc chapitre 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole : Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et lisons ensemble pour terminer le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Quelle parole extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que le bonheur vous intéresse? Le bonheur, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas que de belles paroles, ces paroles que l'on vient de lire. C'est une expérience que l'on peut faire. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Oui, le bonheur, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. Mais le bonheur peut être très loin parfois de ce que l'on peut s'imaginer être le bonheur. Il y a des choses qu'on pense qui peuvent nous réjouir ici-bas et dans lesquelles on pense pouvoir trouver le bonheur, mais elles sont bien loin de ce bonheur que Dieu veut nous accorder. Ici, il y a un bonheur qui est bien réel, qui est bien concret. Et plusieurs personnes pourraient témoigner cet après-midi, plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, qui se sont tournées vers lui, qui se sont engagées à marcher avec lui, plusieurs personnes pourraient témoigner de cette réalité, de cette expérience. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est l'expérience de David. Cette expérience, c'est l'expérience de plusieurs chrétiens ici cet après-midi, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour vous qui êtes là, pour vous qui ne pouvez peut-être pas être dans le bonheur, pour vous qui pouvez être très loin du bonheur. Mais comme je le disais, peut-être avez-vous déjà une mauvaise conception du bonheur, parce que pour certains, le bonheur, ça va être quand on termine la semaine et quand on va commencer le week-end, commencer à aller faire la fête, boire un verre, pour certains ça va être ça le bonheur, quelque chose d'éphémère, un moment festif, éphémère. Pour d'autres, le bonheur, c'est quand ils vont recevoir leur chèque à la fin du mois, voilà, il y a un moment de bonheur. Pour d'autres, le bonheur, ça peut être quand ils ne sont pas avec leur épouse, ça peut être pour certains cela le bonheur. le bonheur que Dieu veut nous accorder est bien loin de tout ça. Il n'a rien à voir. N'a rien à voir avec ces choses-là. Le bonheur que Dieu veut pour nous, c'est un bonheur éternel. C'est un bonheur qui est là tous les jours. Et c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une illusion, c'est vraiment la réalité. C'est ce que Dieu veut. Et j'aimerais que l'on puisse le saisir, mais l'expérimenter. Que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment saisir ces choses-là, être éclairés sur ce qu'est le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Nous avons lu ces trois passages qui nous parlent, il y a cette comparaison dans ces trois passages, cette image qui nous est donnée entre des brebis et un berger. Cette image qui est très simple, mais encore aujourd'hui que tout le monde peut comprendre très facilement, très simplement. Même si à Toulouse on ne voit plus trop de brebis autour de Toulouse, je ne sais pas s'il y en a encore, s'il y a des troupeaux, mais... Il y a quelques années, je pense qu'il pouvait y en avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît peut-être loin, mais c'est quand même néanmoins quelque chose que l'on arrive très simplement à saisir. Cette image est très parlante. Et nous avons lu ensemble ce premier texte dans Matthieu, Matthieu chapitre 18, verset 12. Il nous est dit, « Qu'en pensez-vous ? » C'est Jésus qui parle. « Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Mais que l'une d'elles s'égare. Aller chercher celle qui est égarée. Cet après-midi, vous pouvez être égaré. Jésus-Christ est celui qui vient afin que nous puissions justement ne plus être égarés, nous sortir de nos égarements. Et cette image est très simple, mais très parlante sur notre état, notre situation, quand on ne connaît pas Dieu, quand on est sans lui, et sur ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare. Un homme, dans la Bible, a pu faire cette expérience. On trouve ce verset dans le psaume 119, verset 176. « Je suis errant comme une brebis perdue. » Je suis errant comme une brebis perdue. Il y avait cette image qu'il réalisait lui aussi. Être comme une brebis perdue, égarée, ne sachant pas où aller. Et on peut s'égarer dans toutes sortes de choses. De nos jours, il y a tant de voix qui nous égarent, tant de voix qui nous trompent. On peut se faire égarer par des personnes, par des personnes qui ont une mauvaise influence sur nous. Il y a des personnes comme cela qui peuvent nous amener dans certaines situations, dans certains lieux, certains endroits qui vont nous égarer. On peut se faire égarer par nous-mêmes, on peut s'égarer soi-même, on peut s'égarer par nos pensées, on peut s'égarer par des mauvais sentiments, on peut s'égarer par l'amertume qu'il peut y avoir dans les cœurs, le manque de pardon. Il y a tant de choses qui peuvent être là dans nos vies, dans nos cœurs, qui peuvent nous égarer. Et c'est l'expérience de peut-être certains cet après-midi. J'ai noté aussi que le mensonge nous égare. On peut s'égarer quand on se ment à nous-mêmes. Parfois, on se ment à nous-mêmes. Et le mensonge nous égare. L'amour de l'argent nous égare. Il y a ce verset dans la parole, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il y a toutes sortes de choses comme cela qui peuvent nous égarer. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est cet attachement excessif à l'argent. L'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et il y a toutes sortes de choses comme cela dans notre monde, dans notre vie, qui peuvent nous égarer, nous amener loin de la foi, loin de Dieu, sur des chemins qui nous mènent à nous détruire nous-mêmes, qui nous mènent à la ruine, qui nous mènent à tout perdre. Et il est important de réaliser cela, de réaliser que Jésus-Christ est venu afin que nous puissions sortir de ces égarements, afin que nous puissions être sur le bon chemin. La Bible nous met tous sur le même pied d'égalité. Elle nous dit que nous sommes tous égarés. Elle nous dit dans Romains chapitre 3, verset 10, « Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés. Et nous avons tous passé un temps de notre vie comme cela. Nous avons tous été un temps égarés. C'est là le titre de mon message cet après-midi. Un temps égaré. Un temps égaré. Mais pour Dieu, être égaré, ce n'est pas un problème. Être égaré, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de rester dans l'égarement. Pour Dieu, cet après-midi, encore, il est celui qui veut nous parler, afin que nous puissions réaliser cela et que nous puissions sortir de cet égarement. Oui, nous avons pu être un temps égaré, un temps marcher sans Dieu, un temps le négliger, négliger sa parole, négliger ses commandements, ce qu'il veut pour nous. Être un temps comme cela de notre vie, égaré. Tous se sont égarés, la Bible nous dit. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, il nous est dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est question de Jésus-Christ. C'est sur lui que Dieu a fait retomber notre iniquité, nos péchés. Jésus-Christ, à la croix, est venu et a payé le prix afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions sortir de nos égarements. Oui, comme le disait Michael tout à l'heure, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions venir à Dieu tel que nous sommes, parce que c'est là ce qu'il veut pour nous. Nous l'avons lu ensemble, il est celui qui vient chercher la brebis qui s'est égarée. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre, lui qui est Dieu, lui qui était dans le ciel de gloire, est venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre comme un simple homme et il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et il a marché accomplissant de grandes choses, faisant des miracles, guérissant les malades. Partageant la bonne nouvelle, annonçant qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, manifester la grâce. Et il a pu dire, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus-Christ est toujours le même et il n'a pas changé. Il est vivant et encore cet après-midi, il est celui qui veut sauver. Il est celui qui veut vraiment nous diriger, nous conduire, nous éclairer. Il est celui qui est venu pour cela. Oui, il est important de réaliser qu'à la croix, lui le saint, lui le juste, lui le parfait, lui qui est Dieu fait homme, est venu pour payer le prix de nos péchés, le prix de nos égarements. Le prix afin que nous puissions être en relation avec lui et vivre dans le bonheur, vivre tous les jours comme nous l'avons lu, oui, tous les jours, que nous puissions vivre en étant dans le bonheur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. C'est là ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il a payé le prix fort, il a donné sa vie, son sang a coulé, afin que nous puissions être lavés, purifiés de tous nos péchés, de tous nos égarements, afin que nous puissions être pardonnés, que tous nos péchés soient effacés, que la peine de nos péchés soit effacée. Oui, il a accompli cela, par grâce, par amour pour chacun d'entre nous. Et il est celui encore qui, cet après-midi, nous tend la main, nous donne cette invitation à venir à lui. Bien sûr, il y en a un qui s'opposera toujours à cela. Il y en a un qui se plaît à égarer. Il y en a un qui fera tout pour que nous puissions passer à côté de ces choses-là. La Bible en parle, elle le dévoile, il s'agit du diable. Et ce n'est pas une fable que de parler du diable. Le diable existe, il est bien réel. Certains pensent que certains en rigolent, certains s'en moquent, certains quand on parle du diable, pour eux c'est ridicule. Mais la Bible parle réellement du diable, et elle le révèle comme étant celui qui est le père du mensonge, celui qui trompe. Et Jésus nous annonce aussi ce que le diable est venu accomplir. Dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est la mission du diable. Et il s'acharne à continuer chaque jour, à ne laisser aucun répit à chacun, afin que nous puissions passer à côté de ces choses-là, afin que nous tombions dans ces pièges et dans ces égarements. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors c'est sûr que le diable ne vient pas avec ses grandes dents et faisant peur. La Bible nous parle qu'il peut venir comme étant un ange de lumière. Il vient en se présentant comme cela. Et il s'est trompé. Il sait nous fourvoyer, il sait nous amener loin de Dieu. Mais cet après-midi, et ce n'est pas que cet après-midi, Jésus-Christ est venu, la Bible nous le dit, afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous éclairer, nous apporter la vérité, afin que nous puissions être éclairés sur notre état, notre situation. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il a vaincu le diable. Il est plus fort. Il est le victorieux. Il a tout accompli à la croix. À la croix, il a mis en spectacle les dominations de ce monde, la Bible nous dit. En spectacle les dominations de ce monde, le prince de ce monde, les puissances des ténèbres, il les a vaincus. Et il est celui qui veut détruire les œuvres du diable. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, ruiner. Mais Jésus nous dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous aime tant. Dieu vous aime. Et quelle que soit votre situation, quels que soient vos égarements, quel que soit le chemin que vous avez pu prendre, Dieu vous aime. Et il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions être sauvés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu n'a pas fait que nous parler de son amour. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ à la croix, Dieu fait homme, venu pour nous sauver, à payer le prix, afin que nous soyons libérés, restaurés, afin que nous puissions, oui, je le redis, vivre le bonheur, le véritable bonheur. Ce bonheur qui est d'être pardonné, d'avoir nos péchés effacés, ce bonheur qui est d'être en relation avec Dieu, avec le Dieu vivant, le Dieu puissant. C'est quelque chose de possible, encore cet après-midi en 2016. Oui, cette expérience, vous pouvez la faire. Oui, vous pouvez saisir le bonheur. Et quelle que soit votre situation, Dieu veut vous l'accorder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est possible grâce à Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et comme nous le disait si bien Michael tout à l'heure, pour saisir cette vie, faite de bonheur, faite d'abondance, cette vie, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Pour saisir cette vie, ce n'est pas compliqué. Il nous suffit de nous repentir. Il nous suffit de véritablement, sincèrement nous repentir. Et nous avons lu ce passage dans Luc chapitre 15. Nous avons pu voir ce passage similaire où on retrouve cette parabole. Mais où on voit Jésus, au début, il nous est dit que les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. » cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Voilà, des hommes religieux, des hommes qui n'étaient pas en relation avec eux, Dieu, des hommes qui étaient égarés à cause de la religion. Ça avait aveuglé leurs yeux, aveuglé le fait que Dieu veut sauver l'humanité entière, qu'il est venu afin que nous puissions tous être pardonnés, être purifiés. Ces hommes étaient aveuglés à cause de la religion. Et il y a une grande différence, justement, entre la religion et Jésus-Christ. Dieu n'est pas venu pour que nous ayons une religion, mais que nous puissions être en relation avec lui, pour que nous puissions recevoir sa vie. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Oui, c'est là ce que Jésus-Christ veut faire encore cet après-midi, vous accueillir. Peut-être avez-vous une mauvaise vie, mais Jésus-Christ est celui qui a les bras grands ouverts. Dieu a les bras ouverts pour nous accueillir. Il est celui qui veut nous accueillir, nous entourer de ses bras d'amour. Et quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, il nous appelle à venir à lui. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Ça a pu en choquer certains, mais c'est là la volonté de Dieu. Et on voit cette parabole par la suite. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Quelle grâce ! Jusqu'à ce qu'il la trouve. Jésus-Christ nous donne à tous la possibilité de le trouver, de le rencontrer. Non pas par nos efforts, non pas par nos mérites, non pas par nos bonnes œuvres, mais simplement parce qu'il fait tout. Parce qu'il a tout fait, parce qu'il a tout accompli, afin que nous puissions le trouver. C'est lui qui vient, c'est lui le bon berger. C'est lui qui fait tout pour que nous puissions le rencontrer. Et son amour encore nous pousse à le rencontrer, nous pousse à nous tourner vers lui, à l'accepter, à le recevoir. Il a tout accompli pour cela. Il fera tout et il fait tout pour que nous puissions le rencontrer. Et lorsqu'il l'a trouvée, la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Il la met avec joie sur ses épaules. Il la porte, il panse ses blessures, il la restaure. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, et c'est là... C'est là la conclusion que fait Jésus-Christ. Il ne parle plus de... Il fait une relation avec cette parabole qu'il vient de donner. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait quoi ? Qui se repent. Qui se repent. Voilà l'attitude. Voilà l'attitude à avoir pour saisir cette vie faite d'abondance, pour saisir cette grâce, ce bonheur. Oui, comme nous l'avons lu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner dans ta vie tous les jours. Et c'est une promesse, c'est certain. Le bonheur selon Dieu, non pas selon ce monde, mais le bonheur selon Dieu peuvent t'accompagner tous les jours dans ta vie si tu te repens. Et ce n'est pas compliqué. Dieu ne nous demande pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Cet après-midi, tu peux saisir cette grâce, te repentir. Demander à Dieu pardon pour tous tes péchés, c'est cela se repentir. Réaliser que nous n'avons que ce, la repentance, ce n'est pas simplement que réaliser que nous avons commis un péché, mais c'est réaliser que nous sommes pécheurs. Et il y a une différence entre réaliser que nous avons commis un péché et que nous sommes pécheurs. Et il est important de le réaliser. Réalise que tu es pécheur, que ta nature est contaminée, est complètement salie à cause du péché et que tu es de nature pécheur. Il est important de le réaliser et de demander pardon à Dieu pour cela. Oui, pardon, parce qu'à cause de cela, on l'a offensé, on l'a blessé. À cause de cela, Jésus-Christ est venu. À cause de cela, il est mort pour nous. Réalise cela. Repens-toi. La repentance, c'est aussi demander pardon à Dieu comme cela, mais c'est changer de voie. C'est changer de chemin. C'est réaliser que je marchais sur un chemin qui me menait à la mort, comme nous le dit ce proverbe. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Et certains ont pu penser comme cela qu'il marchait sur un bon chemin, un chemin qui était bien. Il pensait marcher, voilà, sincèrement sur le chemin de la vie. Mais ce chemin mène à la mort. Telle voie paraît droite. Il y en a certains qui ont pensé mener une vie droite, mais cette vie mène à la mort. Ce qui nous mène à la vie, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et c'est de changer de chemin. C'est réaliser que nous marchions comme cela sans Dieu, sans Jésus-Christ, et que nous nous égarions. Et la véritable repentance, c'est changer de chemin afin de marcher avec Dieu, afin de recevoir Jésus-Christ et de marcher avec lui tous les jours. Tous les jours. Non pas simplement le dimanche quand on vient à l'église ou deux, trois fois par an quand on pense à Dieu, mais tous les jours. C'est cela la vraie repentance. Jean-Baptiste a pu dire « porter du fruit digne de la repentance ». Du fruit digne de la repentance. Il nous appelait à porter du fruit digne de la repentance. Et c'est là la parole de Dieu encore pour chacun d'entre nous. Nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Il y a un changement. Quand on se repent, il doit y avoir un changement. Quand on se repent sincèrement, il doit y avoir des fruits. Il doit y avoir un changement de vie, un changement d'attitude. Oui, il y a une transformation que Dieu opère dans nos vies, dans nos cœurs. Mais il y a notre part. Celle d'obéir, celle d'écouter Dieu, celle de suivre Jésus-Christ, tous les jours de le rechercher. Alors cet après-midi, saisis cela, saisis sa main, ne passe pas à côté, ne passe pas à côté de ce bonheur, ne passe pas à côté de la vie. Parce que comme on le disait, telle voie paraît droite, mais la fin, c'est la voie de la mort. Et Dieu est celui qui veut que nous puissions saisir la vie, afin que nous ne périssions pas, afin que nous puissions ne pas être perdus pour l'éternité, mais que nous puissions être avec lui, dans le paradis, mais dès ici-bas, être en relation avec lui. Oui, il est celui qui veut nous conduire. Il est celui qui veut nous diriger. Il est celui qui se soucie de notre quotidien. Il est celui qui se soucie de notre destinée éternelle, mais il est celui qui se soucie de notre quotidien. Et il n'est pas insensible à ce que nous vivons. Et il est celui qui veut nous diriger. Dans la parole de Dieu, il est appelé notre conseiller. Oui, Dieu, Jésus-Christ est notre conseiller. Et il est celui qui veut nous conseiller dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là l'image de la brebis retrouvée, de la brebis qui est dans le troupeau, de celle qui est conduite et dirigée par Jésus-Christ. Cet homme dont je disais tout à l'heure, qui a pu dire « Je suis errant comme une brebis perdue », a pu aussi dire « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'observe ta parole. » Et ce n'est pas tout de se repentir, demander pardon, mais il est important de continuer et d'observer la parole de Dieu afin de rentrer dans ces projets merveilleux que Dieu a conçus pour chacun d'entre nous. Oui, la Bible nous dit, Dieu a un avenir fait d'espérance, de joie, de bonheur, de paix pour chacun d'entre nous. Et il est important de savoir l'écouter afin de ne pas passer à côté. Et David a pu faire cette expérience. Oui, il est celui qui a pu dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il a su réaliser que Dieu est celui qui le dirige. Dieu est celui qui l'a dirigé. Il a pu dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ce qui revient à dire, l'Éternel est celui qui me dirige. L'Éternel est celui qui me conduit. Je ne manquerai de rien. Oui, quand on laisse Dieu nous diriger, quand on laisse Dieu nous conduire, on a cette assurance que nous ne manquerons de rien. Il y a une joie immense, une joie à obéir. Et il n'y a pas de commandement, la Bible nous dit. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu veut pour nous, ce sont des commandements afin de nous conduire dans ces projets faits de bonheur. L'Éternel est mon berger. Et il est important de réaliser cela. Parce que quand on a vécu un temps de sa vie en décidant toujours par soi-même, il peut être difficile de laisser à Dieu les commandes de notre vie. Mais il est important de le faire afin de vivre ce bonheur, cette paix, cette joie. Laisse Dieu te diriger. Tu peux faire un point cet après-midi. Tu peux faire un point sur ta vie et réaliser où est-ce que tu en es. Réaliser où cela t'a mené à te diriger par toi-même. Réaliser les chemins que tu as pu prendre, mais les dégâts qu'il y a pu avoir aussi. Parce qu'on est tous passés par là, on est tous passés par ce temps d'égarement, ce temps où on a subi, des souffrances, où on a subi toutes sortes de choses qui nous ont amenés, oui, à la ruine. Il est important cet après-midi que tu puisses faire ce point, réaliser que Dieu seul, Jésus-Christ, lui seul, est le bon berger. Et il est le seul qui puisse te diriger comme il le faut, là où il faut. Et il est important de l'accepter. Oui, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Depuis quand tu n'as pas pu te reposer? Depuis quand tu n'as pas pu être dans le repos? Vivre dans la paix. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il me fait reposer. Dieu veut t'accorder et vraiment te remplir de cette paix qui surpasse toute intelligence. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, il est celui qui veut te diriger près des eaux paisibles. Peut-être que tu as été toujours dans le besoin jusqu'à maintenant et que tu étais comme loin d'une source et que tu as toujours été dans le besoin, jamais satisfait, jamais comblé. Mais Dieu est celui qui veut te conduire vers ces eaux paisibles. La parole de Dieu nous dit et nous donne cette invitation que Jésus donne encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et Dieu est celui qui veut t'accorder ce repos, cette paix cet après-midi. Il est celui qui veut te conduire. Mais il est important de recevoir, comme nous le dit la suite de ce passage, ses instructions, de recevoir ses directions, de les écouter et d'y obéir. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Oui, comme nous le disait Michael, il est celui qui régénère, il est celui qui restaure, il est celui qui transforme. Et ta vie est peut-être ruinée à cause du péché, mais Dieu est celui qui a tout pouvoir pour nous restaurer. Il est celui qui est capable, encore aujourd'hui, cet après-midi, de te restaurer. Et c'est ce qu'il veut. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est étonnant, il y a un paradoxe. On pourrait se dire que ce lieu, la vallée de l'ombre de la mort, cela ne nous fait pas forcément penser à un lieu où règne le bonheur et la joie. Un lieu où il y a vraiment la gaieté, le repos, la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est important de réaliser que la vie chrétienne n'est pas une vie de bisounours. Ce n'est pas une vie où on marche sur des pétales de rose. La vie chrétienne, quand on accepte Dieu, quand on accepte Jésus-Christ, nous conduira. Et parfois, Dieu nous conduira dans des endroits où il sera difficile, où il y aura des épreuves, où il y aura des difficultés. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas un lieu facile à traverser. Mais Dieu est celui qui nous éclaire. Et il y a des lieux comme cela, pas faciles, des épreuves que l'on peut vivre qui peuvent être douloureuses. Mais ce passage nous dit que quand on accepte Jésus-Christ, quand on accepte Dieu pour berger conducteur, il est avec nous. Il est avec nous. Il est là. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort avec nous. Il est dans l'épreuve avec nous. Et c'est là la grande différence. Oui, quand on est chrétien, il peut y avoir des épreuves, je le redis. Mais la grande différence, c'est qu'on n'est plus seul. c'est que l'on peut les traverser avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et il est celui qui nous les fait traverser. Il est celui qui nous permet d'être victorieux dans ces épreuves. Il est celui qui nous permet de ne pas être terrassés par ces épreuves, par ces difficultés. Mais il est avec nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. Pour les bergers, à l'époque, David saisissait très bien le sens de ses paroles, le sens de ses images qu'il donne. Il était berger. La houlette et le bâton, c'était une seule et même chose. C'était un bâton, et vous savez, avec un crochet au bout. Un bâton sur lequel le berger pouvait s'appuyer pour avancer, mais un crochet pour conduire et diriger les brebis, celles qui pouvaient s'égarer. Et il utilisait ce crochet simplement pour prendre leurs pattes arrière et leur permettre de revenir sur le bon chemin. Mais en regardant les pratiques de justement cet outil, cet instrument, la houlette était aussi utilisée pour enlever des fois des mottes de terre et les jeter afin que les brebis puissent revenir sur la bonne voie, les jeter à côté des brebis. Non pas pour leur faire du mal, mais pour qu'elles puissent se ressaisir, réaliser qu'elles sont dans l'égarement et revenir sur le bon chemin. Cette houlette pouvait être utilisée comme cela, pour jeter des mottes de terre ou des cailloux auprès des brebis qui pouvaient être déjà parties au loin. Et Dieu est celui qui parfois comme cela nous rappelle à venir à lui. Par des choses qui peuvent parfois être difficiles, douloureuses, des épreuves, des difficultés, qui nous rappellent et qui nous permettent d'ouvrir les yeux, de nous ressaisir et de crier à lui. Oui, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Et Jésus-Christ est venu afin que nous puissions être sauvés. Et Jésus-Christ est celui qui veut vraiment que nous puissions être avec Dieu, que nous puissions lui appartenir. Et il est celui qui veut nous conduire afin que nous puissions être éclairés comme cela. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et bien entendu, l'image du bâton qui est utilisé par le berger pour avancer quand il est fatigué, ce n'est pas là l'image que Dieu peut avoir, parce que Dieu n'est jamais fatigué, Dieu ne se lasse jamais, Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour lui-même. Mais cette image du bâton, c'est l'image de Jésus-Christ à la croix. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et dans d'autres versions, il nous est dit, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort, voilà ma consolation. Le bâton, le bois sur lequel a été appuyé Dieu, c'est ce bois de la croix. C'est sur ce bois-là que Jésus-Christ a été cloué, afin que nous puissions recevoir de lui, afin que nous puissions recevoir cette consolation, cette restauration de l'âme, afin que nous puissions recevoir la vie. Oui, c'est ce bâton, ce bois qui nous rassure dans la vie chrétienne. Car dans la vie chrétienne, la croix où Jésus-Christ est mort, c'est le centre de notre vie. La croix où Jésus-Christ est mort, c'est notre repère. C'est cette œuvre à laquelle nous regardons chaque jour. Cette croix où Jésus-Christ est mort, où il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Cette œuvre nous rappelle chaque jour l'amour de Dieu pour nous. Cette œuvre nous rappelle chaque jour que nous pouvons recevoir de lui, oui, la vie, la restauration, que nous pouvons avancer avec lui, par lui, grâce à son œuvre à la croix. Oui, c'est cette œuvre, ce bâton, ce bois qui nous rassure. C'est cela qui fait notre restauration, notre consolation. Il nous est dit par la suite, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et c'est là l'image que Dieu nous donne quand on l'accepte. On change de camp, on change de position. Il y a cette table qui nous sépare de nos adversaires, qui nous sépare de notre ennemi. Et je parlais tout à l'heure du diable en disant qu'il est bien réel. Mais il y a cette table qui, quand on accepte Jésus-Christ, nous sépare. On n'est plus sous la domination du diable, on n'est plus sous la domination du péché, mais on en est libéré, on en est affranchi grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, tu dresses devant moi une table. Et cette table est l'image aussi de cette communion que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il nous est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et lui avec moi. C'est là l'image de la communion, c'est là l'image de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Être en communion tous les jours avec nous, être en relation tous les jours avec nous. Et nous avons lu ensemble, tout à l'heure, je rappelle ce verset, ces hommes religieux qui étaient choqués de ce que Jésus-Christ accueillait des gens de mauvaise vie et de ce qu'il mangeait avec eux. Mais c'est là ce qu'il veut faire. Encore aujourd'hui, cet après-midi, le Dieu vivant, le Dieu puissant est venu sur cette terre et s'est abaissé afin que nous puissions vraiment vivre cette communion avec lui, afin que nous puissions être réconciliés avec lui, afin que nous puissions être en paix avec lui. Et recevoir cette bénédiction. Oui, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile était l'image des soins qui pouvaient être apportés, mais l'image de la bénédiction. Et c'est là ce que Dieu veut faire. Il est celui qui veut nous apporter ses soins, sa bénédiction, notre coupe, afin que notre coupe déborde, que notre vie déborde. Oui, que le bonheur et la grâce, afin que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et afin que nous habitions dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. C'est là ce que Dieu veut, que nous puissions jusqu'à la fin de nos jours habiter avec lui. Quelle grâce! Cet après-midi, Dieu nous tend la main afin de saisir cette grâce. Afin que nous puissions réaliser que la fin de nos jours, ce n'est pas simplement notre vie terrestre, mais que notre âme vit éternellement et que nous pouvons, oui, par la grâce de Dieu, habiter pour l'éternité avec lui si nous l'acceptons, si nous nous repentons, si nous lui obéissons comme nous l'avons entendu, sans rester et demeurer dans nos égarements, mais en sachant écouter le Seigneur Jésus-Christ qui saura nous conduire, qui saura nous conseiller dans tous les domaines, qui saura être là, dans les difficultés, dans la vallée de l'ombre de la mort, qui saura nous fortifier, qui saura nous secourir. Oui, si seulement nous l'acceptons et nous le recevons. Cet après-midi, réalise cela. Ne passe pas à côté. Parce qu'en passant à côté, de cela, la fin de tes jours peut être une mort éternelle, un enfer éternel. Et c'est là quelque chose de réel aussi. La Bible en parle, Jésus-Christ en a parlé, et il nous en parle aussi, Dieu nous parle encore aussi de ce lieu de tourment, de ce lieu où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et cela, ce n'est pas quelque chose dont on doit négliger, se moquer, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et Jésus-Christ est celui qui est venu afin que nous puissions justement saisir la vie, être pardonnés. Saisissons cela cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui te révèle, tu es celui qui touche les cœurs, tu es celui qui sait nous parler, tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous affranchit et qui nous libère. Oui, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Et je prie afin que, Seigneur, les œuvres du diable soient détruites dans la vie de tous ceux qui ont levé leurs mains. Tu connais toutes choses, tu connais leur situation, leur chemin, leur état, et tu vois cet appel à l'aide, cet appel qui fond vers toi. C'est un Éternel, tu es celui qui nous sort de nos égarements. Tu es celui qui nous amène à toi. Et je te prie vraiment d'agir puissamment par ton esprit, dans les vies, dans les cœurs. Je te prie maintenant, Seigneur, de libérer les captifs, de rendre la vue aux aveugles. Et je te prie de renvoyer libres les opprimés. Je te prie vraiment afin que ton esprit puisse apporter la guérison dans les cœurs, mais dans les corps. Tu es celui, Seigneur, qui libère puissamment encore aujourd'hui, en 2016, oui, tu le fait. Seigneur, tu nous accordes cette grâce, cette bénédiction, et tu as vu tous ceux qui font appel à toi. Éternel, tu es celui qui nous accueille, les bras ouverts. Tu es celui qui nous prend avec toi. Oui, tu es celui qui nous reçoit quand on se repent sincèrement. Quand on t'écoute, tu es celui qui pense nos blessures. Tu es celui qui nous lave, nous purifie. Tu es celui qui nous donne de rentrer dans cette nouvelle vie. Et je te prie de conduire toutes ces personnes à t'obéir, à obéir à ta parole, à Seigneur, à marcher tous les jours avec toi. Oui, car c'est alors qu'ils vivront tous les jours dans le bonheur, tous les jours dans ta grâce. Je te prie vraiment, Seigneur, de les aider à se fortifier en toi. Seigneur, je te prie vraiment de les aider à rester sur le chemin qui mène à la vie, sur le chemin qui mène à toi. Seigneur, sur le chemin qui nous mène à habiter avec toi pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu fais, car nous savons que quand, Seigneur, nous faisons appel à toi, tu es celui qui intervient, tu es celui qui sauve et qui libère. Seigneur, tu es celui qui agit, et je te prie maintenant d'intervenir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.